Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. Dire stop à l'islamophobie, ni plus ni moins, c'est une manifestation controversée qui se prépare, Gare du Nord à Paris, en présence notamment de Jean-Luc Mélenchon, mais la plupart des leaders de la gauche, d'accord sur le fond, se sont désistés. Marine Le Pen dénonce une manifestation islamiste. Quel score pour l'extrême droite en Espagne. Les Espagnols retournent aux urnes 6 mois seulement après la victoire du socialiste Pedro Sanchez, qui n'avait pas eu la majorité absolue, mais c'est le parti Vox qui devrait en profiter et devenir peut-être la troisième force du pays. Les Françaises au sommet en tennis, elles emportent la Fed Cup face à l'Australie, 16 ans après leur précédent trophée. Tout s'est joué ce matin dans le double, gagné par le duo Mladenovic-Garcia. Dans ce journal également, où en est la lutte contre la cyber-haine, 1 an après l'appel de Paris lancé par Emmanuel Macron, 4 mois après le vote d'une loi sur le contrôle des contenus haineux, le point avec notre invité juriste à la quadrature du net. Et puis c'est à l'e-sport ce que la Coupe du Monde est au foot. La finale des mondiaux de League of Legends, la star des jeux vidéo, a commencé à Bercy. C'est la première fois en France.
France Inter.
Y aller ou pas, rarement manifestation aura suscité autant de polémiques. Le défilé qui doit s'élancer dans un instant de la Gare du Nord à Paris, direction Nation, partait d'une bonne intention, dénoncer l'islamophobie ou la stigmatisation réelle ou supposée des musulmans. De nombreux leaders de gauche avaient signé l'appel publié dans Libération le 1er novembre avant de se défiler, c'est le cas de le dire, de se défiler face aux ambiguïtés du texte et du positionnement des organisateurs. D'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, ont malgré tout confirmé leur intention de participer à ce rassemblement qualifié d'islamiste par Marine Le Pen. On verra ce soir au moment du bilan. Pour le moment, Mathilde Dohémy, vous êtes à la Gare du Nord où le cortège se met tout doucement en place.
Oui, les manifestants commencent à se rassembler devant la Gare du Nord. Malika est venue avec sa fille d'Épinay-sur-Seine. Elle a exceptionnellement enlevé son foulard pour le remplacer par 3 petits bouts de tissu bleu-blanc-rouge sur sa tête. Malika a été agressée en 2015 à cause de son voile. Elle veut rappeler qu'elle peut être française et musulmane.
C'est comme on est insulté, ou ça m'a fait mal au cœur parce que c'est vraiment, c'est trop.
Même si on est visé, on est attaqué ou quoi que ce soit, on part chez la police ou quoi que ce soit, il ne prend pas notre en plein sérieux. Je ne suis pas la première.
Malika a changé, dit-elle. De peur d'être agressée, elle évite notamment les transports en commun. Sa fille Asna ne supporte plus les confusions et stigmatisations entre musulmans et djihadistes ou islamistes.
C'est barbare, c'est évident. Je n'ai pas à justifier ou à confirmer que je ne suis pas d'accord. J'ai quand même grandi, je suis le fruit de la France. J'étais à l'école républicaine, je suis fonctionnaire de l'éducation nationale. Donc je ne sais pas quoi faire de plus pour dire que je suis bien française.
En tant que fonctionnaire, Asna se dit attachée à la loi sur la laïcité, aucun signe religieux au travail, mais elle s'inquiète. Si un jour je décidais, dit-elle, de porter le voile et que mes collègues me voyaient l'enlever avant d'arriver, cela serait-il considéré, s'interroge-t-elle, comme un signe de radicalisation. Le cortège va bientôt partir, en présence notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui appelait ce matin à faire bloc et manifester malgré les désaccords pour garantir la laïcité et la liberté de culte.
Mathilde Dohémy, Gare du Nord à Paris avec Jérémy Thuil. Contribution à ce débat ce matin également celle d'Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques, qui regrette les crispations de ces dernières semaines autour des foulards des femmes musulmanes. Mieux vaudrait savoir ce qu'elles ont en tête plutôt que de leur prêter des intentions, dit-il, soulignant la différence entre un voile qui cache le visage et un foulard qui l'encadre, jugeant enfin que nos concitoyens d'origine nord-africaine ou subsahélienne ont quelques raisons de ne pas faire entière confiance à notre fraternité française. Le président de la Conférence des évêques appelle à multiplier les rencontres entre familles chrétiennes et musulmanes. En Espagne, ça devient un rendez-vous quasi annuel, décidément. Les électeurs retournent aux urnes ce dimanche pour la 4e fois en 4 ans. 6 mois seulement après les législatives d'avril, remportées par le Premier ministre Pedro Sanchez, mais sans la majorité absolue, le même demande aux Espagnols de lui donner cette fois un mandat clair pour gouverner, ce qui ne devrait pas être le cas si l'on en croit les sondages, selon lesquels l'extrême droite pourrait encore progresser, favorisée par la crise catalane. C'est en Catalogne, d'ailleurs, que vous vous trouvez, Isabelle Labéry. Vous avez suivi ce matin à Barcelone les premières opérations de vote.
Oui, et dans le hall de la fac de droit, ici, pas besoin d'isoloir. On remplit son bulletin sur un banc en discutant avec ses voisins.
Vous ne vous cachez pas pour voter ?
Non, pas du tout.
Je crains rien.
Ce quartier huppé des hauteurs de Barcelone vote par devoir, mais sans illusion. Elena se dit même consternée par l'inconstance des dirigeants socialistes.
Ils s'en foutent des citoyens. Il fait des accords avec la droite, après il fait des accords avec la gauche, après il veut avoir le pouvoir. N'importe avec qui.
José, lui, regrette surtout que la campagne se soit beaucoup trop focalisée sur un sujet.
Il n'y a que quelqu'un qui, de temps en temps, qui ose dire « Attendez, mais il y a quand même d'autres régions en Espagne. Moi, on s'en fout des autres régions. Il n'y a que les méchants catalans dont il faut parler. Mais c'est quoi ça ? Je n'ai marre, et encore une fois, je ne suis pas un indépendantiste, je n'ai marre d'aller dans le reste de l'Espagne et m'entendre dire « Qu'est-ce qu'ils sont méchants, les catalans ? Qu'est-ce qu'ils sont ceci, cela ?» Mais alors, laissez-les partir si c'est comme ça. Laissez-les partir.
Les indépendantistes devraient l'emporter en Catalogne, mais pour Anne-Marie, professeure de littérature, ce n'est pas ce scrutin qui apaisera les tensions avec Madrid.
La seule sortie possible, c'est l'Europe. Le problème est trop enquisté. Seule l'Europe peut nous aider en jouant les médiateurs.
Premier résultat et première négociation entre formations politiques ce soir vers 21h.
Isabelle Labéry à Barcelone avec Laurent Maketti. Nouvelle élection présidentielle en vue en Bolivie après le rapport des États américains, de l'Organisation des États américains qui demandait l'annulation du premier tour. Le président Evo Morales annonce à l'instant la tenue d'une nouvelle élection. En Ukraine, la troisième sera peut-être la bonne. Troisième opération de retrait des troupes de part et d'autre du front dans le Donbass à l'est du pays qui est en guerre depuis 2014. L'armée d'un côté, les séparatistes pro-russes de l'autre doivent reculer d'un kilomètre. C'est la condition posée par la Russie à l'organisation d'un nouveau sommet de paix. La Russie qui suit donc de très près ces opérations de retrait. Claude Bruyot à Moscou.
Boris Grizlov, le représentant de la Russie au cœur du processus de paix dans le Donbass, s'est félicité hier auprès de l'agence officielle TASS de l'entame réussie de ce troisième retrait simultané de troupes. Cette réaction russe valide la démarche engagée, mais si l'opération se présente mieux que lundi dernier, où elle avait dû être reportée à cause d'une énième rupture du cessez-le-feu, elle ne se terminera officiellement que lundi, à la mi-journée, lorsque les deux camps, pour l'ensemble du matériel et des troupes concernées, auront fait constater par les observateurs de l'OSCE sur place leur nouvelle position. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait officiellement informé dès hier le chef de la mission de l'OSCE du succès des deux premiers retraits en soulignant que ces opérations se déroulaient, je cite, « malgré une situation difficile ». Référence évidemment à la forte pression d'une partie de la population ukrainienne opposée à ces abandons de postes militaires perçus comme une forme de capitulation vis-à-vis de la Russie. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
C'était il y a un an, le président de la République lançait un appel de Paris pour la sécurité du cyberespace, un appel signé par 370 États, ONG et entreprises, à l'exception notable des États-Unis, de la Chine et de la Russie. En revanche, Microsoft était de la partie, son président saluant un vrai tournant dans la façon d'aborder le problème par la collaboration de tous. Par la même occasion, le même Emmanuel Macron annonçait une expérimentation avec Facebook sur le contrôle des contenus haineux.
Sur les propos haineux, sur le cyberharcèlement, il nous faut faire beaucoup plus en matière de coopération entre États et avec les acteurs privés. Mais les ravages de ce qui est en train de se passer sont là, en particulier dans notre jeunesse. C'est pourquoi la France lancera, avec Facebook, une expérimentation de terrain inédite durant le premier semestre 2019. Facebook accueillera prochainement une délégation de régulateurs français qui auront pour mission, avec les experts de la plateforme, d'élaborer des propositions conjointes, précises et concrètes sur la lutte contre les contenus haineux ou offensants. C'est une première. Je me réjouis ici de cette démarche expérimentale très innovante qui permettra de réfléchir très concrètement aux meilleures voies pour garantir que les grandes plateformes appliquent un haut niveau d'exigence et de qualité dans la modération des contenus qu'elles hébergent.
Voilà, Emmanuel Macron, le 12 novembre 2018, l'expérience a débouché sur une loi contre la cyberhaine votée début juillet par l'Assemblée. Loi qui impose aux plateformes de retirer dans les 24 heures tout contenu haineux, raciste ou homophobe. Et elle oblige les mêmes plateformes à coopérer avec la justice en fournissant par exemple les adresses IP des internautes. Invité de ce droit de suite, Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors vous n'étiez pas enthousiaste à l'annonce de cette loi qui pour vous n'allait pas changer grand chose, vous le pensez toujours ?
Oui bien sûr, elle ne change pas grand chose. Le fait que les grandes plateformes collaborent avec la justice, c'est extrêmement ancien, c'est depuis presque les débuts d'Internet que c'est déjà dans la loi. En fait, cette loi, elle vient acter une collaboration très forte entre Facebook et le gouvernement, et une collaboration qui a pour but de masquer les vrais problèmes que présente Facebook et de le présenter comme un sauveur, alors qu'en fait, Facebook est plutôt le coupable.
Mais vous dénonciez un risque de censure politique. Ça ne s'est pas produit. Ça ne va pas jusque-là.
Alors, c'est difficile d'évaluer la taille et l'ampleur des censures politiques, mais a priori, Facebook a pour mission de censurer des contenus qui sont très variés, notamment des contenus de violence, parfois qui flirtent avec le terrorisme, mais avec une notion qui est extrêmement large en droit européen et qui est de toute façon librement impliquée par Facebook. Donc on peut vraiment craindre que l'an dernier, la vague de comptes de Gilets jaunes qui était supprimée, était une forme de censure politique. Alors peut-être que Facebook l'a pas intégré comme ça en son sein, mais ça a pu avoir cet effet-là en tout cas.
Alors quel serait selon vous le juste milieu entre ce qu'on appelle l'Internet californien qui est dominé par les grands acteurs et l'Internet à la chinoise qui est contrôlé par le gouvernement ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être retourner aux origines de l'Internet, qui était une bonne idée. Et le modèle initial d'Internet, c'était de ne pas reposer sur quelques entités, mais au contraire de distribuer parmi tous les intervenants d'Internet les capacités de censure, les capacités de stockage, les capacités d'échange. Aujourd'hui, Internet ressemble beaucoup au Minitel qu'on a inventé en France, qui a été une catastrophe, où on a 4 ou 5 acteurs qui stockent les données de presque l'humanité entière, qui choisit qui peut parler avec qui et sous quelles règles. Ce modèle-là est terrible. D'abord, il est terrible parce qu'il offre des pouvoirs de censure extrêmement forts à Facebook et Google, on le voit. Et ensuite, il est terrible parce que il complique tous les rapports humains. Sur Facebook, sur Twitter, il y a tellement de gens qui sont réunis, et cette masse de gens est réunie à des fins commerciales, pour proposer de la publicité ciblée. Mais quand on a autant de gens réunis, forcément que les gens ne sont pas d'accord entre eux, forcément que ça crée du conflit extrêmement important. Oui. Et Facebook ne peut pas régler le conflit, empêcher la haine sur une plateforme aussi grosse qu'il a créée. On n'a jamais vu une plateforme aussi grosse dans l'histoire de l'humanité, c'est absurde.
Mais vous convenez qu'il faut réguler les contenus, mieux les encadrer, c'est la moindre des choses. Pourquoi le net échapperait-il aux lois qui régissent l'édition, l'audiovisuel, la vie en société ?
Alors le net n'a jamais échappé aux lois. Depuis le tout début, le net est soumis aux lois, on a des procès tous les jours devant les juges, mais ne trop s'intéresser au contenu, c'est trop s'intéresser aux symptômes, alors qu'il faut s'intéresser à la cause. Et en fait, c'est pas normal qu'il y ait autant de conflits, autant d'insultes, autant de propos clivants sur Internet qui soient diffusés aussi bien, alors que dans la vraie vie, ils seraient diffusés de façon moins bonne. Et en fait, parce que Internet aujourd'hui est soumis à une structure particulière, qui est une structure d'économie de l'attention, qui est créé par Facebook et Google, qui a pour but de nous faire rester le plus longtemps possible sur leur site pour ensuite vendre notre cerveau disponible. Et ça, ce modèle-là, qui est extrêmement nocif, qui est dénoncé d'ailleurs par beaucoup de gens à l'Assemblée nationale, c'est pas quelque chose de très compliqué à critiquer. Mais en tout cas, le gouvernement n'a jamais décidé de s'y prendre. Et quand nous, on a proposé des propositions législatives concrètes pour déconstruire ce modèle d'économie de l'attention qui est si clivant de Google et Facebook, le gouvernement a simplement répondu que c'était trop risqué pour la France de s'en prendre aux géants du net américain, parce que ça serait risquer des représailles de Trump.
Okay. Voilà,
le niveau de courage politique du gouvernement sur ces questions est vraiment nul.
Merci beaucoup Arthur Messot, juriste à l'association La Quadrature du Net. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une sortie du glyphosate qui sera plus difficile que prévu si l'on en croit un rapport parlementaire. Le calendrier qui prévoit de ne plus l'utiliser fin 2020 ne sera pas tenu, écrivent les députés, qui demandent au gouvernement de préciser rapidement les cultures qui pourront bénéficier d'un délai en 2021 parce que selon eux, il est vital pour les agriculteurs de savoir s'ils seront soumis à l'interdiction ou pas. Sachant que la transition sur leur exploitation, écrivent les députés, leur coûtera cher en investissement, en frais de main-d'œuvre et de carburant. Elles l'ont fait, les Françaises, après 3 défaites en finale ces dernières années, ont remporté la Fed Cup ce matin face aux Australiennes 3-2. Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont apporté le point décisif du double en 2-7, 6-4, 6-3, la troisième Fed Cup de l'histoire pour l'équipe de France après 97 et 2003 et le premier grand titre pour le capitaine Julien Beneteau dès sa première campagne. Jean-Pierre Blimaud, vous êtes à perf, c'est une vraie perf, c'est le cas de le dire, qu'ont réussi les Françaises ce matin.
Elles se prennent dans les bras puis s'écroulent ensemble, enlacées sur le court, saisies par l'émotion. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic réalisent tout à coup qu'elles viennent d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du tennis français. La lyonnaise et la nordiste viennent de transformer leur troisième balle de match face à la paire australienne, composée de Samantha Stosur et surtout d'Ashley Barty, la numéro 1 mondiale du moment, portée par tout un peuple. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, brouillées en 2017, réunies cette année par le capitaine Julien Beneteau pour la cause, ont enfin réussi ce qu'elles n'avaient pas pu faire, battues il y a 3 ans par les Tchèques à Strasbourg lors de la finale de 2016, la seule qu'elles avaient disputée. Mais dans ce week-end historique, une joueuse est à féliciter particulièrement, Kristina Mladenovic. Elle a gagné ses 3 matchs, expéditive lors de son premier simple face à Aya Tomjanovic. La nordiste a terrassé ce matin Ashley Barty en 3-7, alors que la Française avait perdu la première manche. Après 1997 en Belgique contre les Pays-Bas, 2003 à Moscou face aux USA, c'est donc en Australie, très loin de la France, que les Bleus ont vécu l'un des moments les plus émouvants de leur carrière. À Perth, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Et les Françaises ont été félicitées, bien sûr, par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, même le président de la République, qui s'est fendu d'un message sur Twitter en saluant leur combativité. Mais c'était écrit qu'on gagnerait, a simplement commenté de son côté, celle qui était fâchée jusqu'ici avec l'équipe de France, fâchée depuis 3 ans, Caroline Garcia.
J'ai un peu de mal à réaliser parce que en 36 heures, je suis passée par pas mal d'émotions. Mais franchement, bah, voilà, on l'avait dit qu'on allait la gagner tous ensemble, cette coupe. Et voilà, c'est ce qu'on a fait toute l'année. On a apporté des points. Aujourd'hui, c'est Kristina qui en apporte 3. On a gagné le double décisif. De toute façon, j'ai envie de dire, c'était écrit qu'on allait gagner au double décisif, même si on aurait voulu gagner à 3 et s'éviter quelques sueurs froides. C'était comme ça. Et il y a 3 ans, on avait perdu le double décisif. Et cette année, punaise, mais on était montés sur des ressorts, quoi.
Voilà, Caroline Garcia au micro de Jean-Pierre Blimaud. L'année prochaine, la Fed Cup changera de formule. Elle se jouera sur une semaine. En voile, ils n'ont pas battu le record de la traversée, mais ils ont fait la course parfaite alors qu'ils n'étaient pas favoris. Charles Dalin et Yann Eliès ont reporté cette nuit la 14e Transat Jacques Vabre, arrivé à Salvador de Bahia avec une avance confortable. Leurs poursuivants n'ont pas encore touché terre. C'est une première grande victoire pour Charlie Dalin, la 3e sur cette course pour l'expérimenté Yann Eliès, au terme d'un scénario inattendu. Yann Eliès avec Fabrice Rigobert.
Incroyable, parce qu'on avait nos potes Charal qui était avec plus de ça, quasiment 100 000 d'avance, qui attaque le poteau noir, et puis là malheureusement il tombe dans un traquenard, et nous derrière on utilise au mieux nos armes, notre bateau et notre feeling pour traverser cette zone de rage et en ressortir avec quasiment le double d'avance sur eux quelques jours après. C'est un scénario qui n'était pas envisageable et qui était totalement incroyable.
Voilà, Yann Eliès, vainqueur de la Transat. Allez, du sport, c'est en tout cas de l'e-sport, le jeu vidéo le plus populaire de la planète, League of Legends, LOL pour les spécialistes. Il a lui aussi ses compétitions et ses mondiaux, dont Bercy accueille ce dimanche la finale dans une ambiance survoltée. Jamais la France n'avait organisé une telle compétition à ce niveau, et ce n'est pas le fruit du hasard, Amaya Cazenave.
On ne le sait pas forcément, mais la France est une place forte de l'e-sport. Bertrand Amar, spécialiste de jeux vidéo.
Une des coupes du monde du jeu vidéo, Electronic Sport World Cup, elle est née à Poitiers en 2003, elle existe encore. Et puis, même au niveau international, on voit que dans les grandes équipes, il y a toujours des joueurs français.
On compte plus de 850 joueurs pros en France. La filière se structure de plus en plus autour d'académies, sorte de centre de formation. La plus connue, Vitality, est installée à Paris. Paris qui a d'ailleurs l'ambition de devenir la capitale européenne de l'e-sport. Jean-François Martins, adjoint en sport à la mairie.
On est le 3e éditeur mondial de jeux vidéo. On a, avec la Paris Games Week, le 3e plus gros événement professionnel. Paris a une belle tradition d'organisation de compétitions sportives, avec des marques mondiales comme le Paris Saint-Germain, Roland-Garros, le Tour de France.
Difficile quand même de rivaliser avec les pays asiatiques, et notamment la Corée du Sud, l'Eldorado, selon Davin, jeune joueur parisien.
Il y a beaucoup plus d'argent que sur l'e-sport, il y a beaucoup plus de personnes qui jouent. La Corée, c'est vraiment le pays de l'e-sport, du coup il y a beaucoup plus d'infrastructures.
Et pour peut-être faire concurrence France un jour à la Corée du Sud, une feuille de route interministérielle a été créée pour développer le secteur d'ici 2025.
Voilà, c'est pour l'e-sport l'équivalent de la Coupe du Monde de foot et c'est à Bercy, une finale qui devrait être suivie en ligne d'ailleurs par plusieurs dizaines de millions de fans à travers le monde.